Merci Stéphane d'avoir introduit cela. Merci aussi pour les témoignages qui étaient tout à fait pertinents à ce qu'on va partager dans cette série, notamment celui d'André et puis le soin que Charlie apporte avec un café, avec en allant se promener avec lui, ce qui apporte beaucoup de choses. Et c'est exactement ce qu'on veut partager avec cette série « Illumine ton monde ». Jésus, il a en effet dit « Je suis la lumière du monde », mais il a aussi dit « Vous êtes la lumière du monde, à votre tour. » Du coup, c'était pas seulement « moi, je suis », et puis il voulait être collaborer avec nous dans ce monde, et puis il demandait aux autres d'être la lumière du monde, du coup, nous. Et chaque dimanche, on va avoir une attitude que Jésus nous a demandé d'avoir pour bénir d'autres personnes, pour être une lumière. Ce seront toujours des actions simples qu'on pourra déjà commencer à pratiquer dans cette période de fin d'année, pour bénir des personnes à notre tour en s'inspirant de la lumière que Jésus nous apporte. Et là, l'attitude de Jésus que j'ai choisie pour commencer, qui peut faire grand bien aujourd'hui à notre entourage, est celui de la douceur. En nous renvoyant la balle pour que nous, à notre tour, on soit la lumière du monde, Jésus l'a dit, « Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. » Il y a deux sens à doux, c'est soit dans le saveur, le contraire de amer ou de acide. Par exemple, il nous arrive d'acheter ces bacs avec deux types de raisins, les raisins rouges et les raisins blancs. Et très souvent, l'un des deux est plus acide que l'autre. Mais c'est logique, mais mes enfants, ils repèrent juste vite lequel est le plus acide, lequel est le plus doux. Et ils veulent que le raisin le plus doux pour le goûter à l'école, quand le mettent que... si c'est le blanc ou c'est le rouge qui est le plus doux. Mais ça peut aussi être dans le toucher, doux comme le contraire de rugueux. L'autre jour, Théo est tombé à la sortie de l'école et il arrivait en pleurant, il avait le genou qui était tout ouvert. Imaginez que je lui dise, ne t'en fais pas Théo, j'ai quelque chose pour nettoyer. On va déjà prendre une lime, et puis comme ça on peut bien frotter. Ça nettoie, et puis après je vais mettre le produit désinfectant, et puis après ça sera bon. Ouh. Je pourrais dire, je mets du coton pour nettoyer, tout doucement, on va aller doucement. Et puis ensuite, je vais mettre aussi le produit, et puis on va nettoyer. Déjà le coton, c'est déjà difficile. L'autre, ça serait encore plus. Mais les deux images fonctionnent pour l'exemple de Jésus. Les doux... ils sont appelés à être doux pour ne pas être acides dans les paroles ou amers dans les souvenirs ou parce qu'ils sont rudes dans les attitudes. S'ils sont doux parce qu'ils rejettent ce genre d'attitude, ils recevront un héritage. Mais être doux ne veut pas dire éviter des sentiments négatifs. En disant heureux les doux, Jésus ne disait pas qu'il ne faut jamais se fâcher ou qu'il ne faut jamais... avoir une conversation difficile pour résoudre les conflits, ou ne jamais élever la voix, ou ne jamais confronter quelqu'un, non, c'est pas ça. Regardez juste quelques exemples d'un Jésus qui se fâche, qui parle dur à ses disciples, et pourtant, c'est la personne la plus douce qu'on connaisse. D'abord, quand les gens apportaient des enfants pour que Jésus puisse les toucher, les disciples étaient très acides avec les parents, en disant, leur faisant des reproches, « N'approchez pas avec ces enfants, ça va perturber l'enseignement de Jésus. » Et en voyant cela, Jésus se met en colère et il dit à ses disciples, « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas. » Jésus, quelqu'un de pleinement doux, se fâche ici parce que les gens voulaient exclure les petits de le rencontrer. Les disciples se disaient, peut-être quand ces enfants grandiront, ils pourront suivre Jésus, mais pas maintenant. Maintenant, ils vont déranger, ça va faire du bruit, pas maintenant. Et pour Jésus, c'était absurde de penser comme ça, c'était injuste avec les plus petits de ce monde. Pour Jésus, les enfants étaient tout à fait partie du règne de Dieu, autant que les adultes, et déjà à cet âge-là. Ou un autre exemple, quand Jésus, d'une manière très intime, a partagé avec ses disciples qu'il allait souffrir, qu'il allait mourir, et Pierre, avec toutes les bonnes intentions du monde, il lui prend à part et lui dit « Que Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retourna et dit à Pierre, « Arrière, Satan, tu es un piège pour moi. » car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Là, Jésus se fâche parce que Pierre était en train de suggérer que Jésus ne devait pas suivre la mission de Dieu pour sa vie. Et s'il s'est fâché, c'était contre cette manière de penser. Le confort est plus important que la mission de Dieu pour ta vie. Et du coup, Jésus se fâche contre ce mode de pensée. C'est juste pour mettre deux exemples, mais il y a plein d'autres où Jésus s'est fâché. Donc, avant tout, de parler douceur, si tu vis à un moment donné dans ta vie une situation abusive, du harcèlement, de la violence physique, verbale, de l'abus d'autorité, ce n'est pas le moment d'essayer d'être doux. Hein. C'est le moment de chercher de l'aide, de mettre une distance, de faire tout ce qui est possible pour ne pas laisser cette situation continuer, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. Et pour ceux qui ont de la peine à réagir quand ils passent par une situation comme ça, ça aide à penser, si cette personne fait ça à toi, elle va aussi faire à d'autres personnes. Alors si tu ne veux pas réagir pour toi, réagis au moins pour les autres, pour protéger d'autres personnes. Ou encore si quelqu'un proche de toi vit une vie double, venant à l'église, après vivant pire qu'un incrédule à la maison, ou si quelqu'un est sur le point de prendre des décisions qui vont briser des relations, blesser plein de monde, on peut élever sa voix, on peut se fâcher, on peut confronter les personnes en question, parce que c'est ce que Jésus ferait. Ça, c'est suivre son exemple. Et c'est quelque chose que je dois moi-même apprendre à faire. Mais Jésus a quand même dit « Soyez doux » et ils recevront un héritage. Et j'aimerais montrer une disciple de Jésus qui a illuminé son monde au milieu d'une grande obscurité. Et je pense à Corrie ten Boom. Corrie ten Boom, pour ceux qui peut-être n'ont jamais entendu parler, elle est née aux Pays-Bas dans une famille horlogère. Et la boutique était au rez-de-chaussée, la maison familiale était située au-dessus. Exactement comme vous, comme pour les Lachins. Elle s'est aussi formée comme horlogère et elle est devenue en 1922 la première femme horlogère agréée aux Pays-Bas. Ce qui est très intéressant. Elle et ses frères et sœurs ont été élevés dans une famille qui croyait vraiment en Jésus, qui priait ensemble, qui voulait enseigner à d'autres, qui voulait partager cette bonne nouvelle avec d'autres personnes. Et pendant la Deuxième Guerre mondiale, quand l'Allemagne a envahi les Pays-Bas, la famille a décidé d'aider les juifs persécutés et ils mettent un faux mur dans la chambre où elle dormait, qu'on peut voir dans le musée. Elle a appelé la hiding place, la cachette secrète. Il y avait une ventilation, ils pouvaient abriter jusqu'à 6 personnes dedans. Ils entraient par là, il y avait une entrée ici, après il y avait encore un faux mur. Et le site Biographie estime qu'environ 800 personnes ont été sauvées en 4 ans. Et la cachette n'avait jamais été découverte pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais la famille a été dénoncée. Du coup, le père, Corrie, sa sœur, quelques membres de sa famille ont été emprisonnés en 1944. Elle et sa sœur sont envoyées dans un camp de concentration pour femmes. Et en décembre, sa sœur décède malheureusement. Et Corrie est libérée par une erreur administrative. Du coup, c'est un peu un miracle. Vous pouvez partir, et puis elle est libérée du camp de concentration. Et par la suite, elle a écrit plusieurs livres, quelques-uns là sont en français. Et puis pour moi, elle est une des personnes qui a le plus réussi à vivre pleinement le verset qu'on a lu tout au début. Inspirée de la douceur de Jésus, elle a sans tour vécu en douceur pour briller, malgré les choses horribles qu'elle a vécues. Et du coup, j'aimerais partager des conseils de 7 disciples de Jésus aujourd'hui avec vous pour nous aider à suivre l'ordre de Jésus. Voici le premier qu'elle dit. Si le diable ne peut pas nous rendre mauvais, il nous rendra occupés. Je dis souvent avec mon partenaire de prière, le stress est un tueur de relations. C'est souvent quand on est très occupé qu'on perd notre douceur. Et ça peut être particulièrement vrai pendant la période de Noël. On voudrait du calme pour réussir à organiser la cuisine, terminer les biscuits, les enfants n'arrêtent pas de faire du désordre et de pleurer. Ou dans les rencontres de famille, il y a ces différences d'habitude qui nous dérangent. Ou il faut absolument faire ceci ou cela dans un tel délai, alors si quelque chose me perturbe, ben je perds ma douceur. Et le conseil de Corrie, tenez tout légèrement dans vos mains. Sinon, cela fait mal quand Dieu vous ouvre les doigts. Parfois, on perd cette douceur parce qu'on tient absolument à ce que les choses soient faites et qu'elles soient faites à notre manière. Je l'ai déjà expérimenté, que Dieu, en tant que souverain, il permet qu'on soit perturbé dans nos plans pour qu'on se rende compte combien on est attaché à nos propres idées et à nos propres projets. Mais à ces moments, ça serait intéressant de nous arrêter pour poser la question, est-ce que tout ce que j'ai planifié est réellement nécessaire à ce point-là ou pourrait être simplifié? Très souvent, l'idée de base est bonne, mais on en rajoute. Elle peut même se dévier de l'essentiel avec tout ce qu'on a mis autour. La prochaine est de mes préférées. Elle dit, il n'y a pas de panique au ciel. Dieu n'a aucun problème, seulement des plans. Je pourrais même ajouter des plans qui se concrétisent. Est-ce que vous pensez que les anges courent dans tous les sens, dans les bureaux du ciel, en disant, mon Dieu, le chef de Marco n'est pas content, il met de la pression à tous les employés, qu'est-ce qu'on va faire? Non, Dieu, il voit la tristesse, il voit la souffrance, mais il n'est pas paniqué. Lui, il a tout le contrôle dans ses mains. C'est comme un très bon joueur d'échecs. Il n'est pas angoissé si son cheval et sa tour sont capturés et il n'a encore rien pris de l'adversaire. Le bon joueur d'échecs sait exactement où il veut aller avec ses pions et il sait comment faire pour aller faire échec et mat. Ça, c'est Dieu. Jamais préoccupé, juste confiant dans ses plans. Il arrive à voir les choses avec une autre perspective, Dieu. Mais c'est à nous d'y entrer dans la perspective de Dieu. Et Corinne nous dit, si vous regardez le monde, vous serez en détresse. Si vous regardez l'intérieur, vous serez déprimé. Mais si vous regardez le Christ, vous serez au repos. Si on se rappelle dans ces moments que finalement, Dieu, il a le contrôle de tout, il veut le meilleur pour notre vie, ben on va apprendre à regarder à lui et entrer dans ses plans et garder la douceur même quand les choses ne se passent pas à ma manière. Et comment entrer dans cette confiance constante au fil de nos semaines de fin d'année qui sont bien animées? Alors il pose une question pour enseigner ça. Il dit, la prière est-elle votre volant ou votre roue de secours? On conduit notre journée en parlant avec notre papa constamment ou on lui parle que quand il y a un de ces problèmes qui surgissent? Il n'y a aucun problème de demander de l'aide lorsqu'une situation problématique arrive. Mais il conseille plutôt ça. Ne vous donnez pas la peine de donner des instructions à Dieu. Présentez-vous plutôt pour recevoir des instructions. Qu'est-ce que tu veux déjà de ma journée? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans cette situation? C'est commencer sa journée comme ça. Seigneur, certainement il y aura des imprévus, certainement. Des situations stressantes, au travail, à la maison, partout. Mais je veux garder cette confiance constante pendant la journée. Et quand je ne saurai pas comment agir ou que je sentirai le stress qui commence à monter, je vais m'arrêter, je vais demander comment je fais pour entrer dans tes plans maintenant, dans cette situation-là qui commence à me dépasser. Je commence à perdre toute ma douceur en ce moment. Comment je fais pour entrer dans tes plans, vu que tu as le contrôle de tout? Comment je peux rechercher de l'aide, peut-être? Et c'est intéressant que le thème « faire confiance à Dieu » vient très souvent dans ses écrits. Je pense que la douceur est très liée à cela. Le Seigneur a le contrôle sur toute chose. C'est pour ça que je peux être doux. Pas parce que tout se passe comme j'attendais, c'est trop facile d'être doux si tout se passe exactement comme je voulais. Et deux hommes dans la Bible ont dû se présenter devant Dieu pour exécuter une tâche difficile. Et ils ont choisi de faire confiance à la souveraineté de Dieu. Et c'était Caleb et Josué. Et peut-être c'est de cette histoire que Jésus s'est inspiré pour dire que les doux recevraient la terre en héritage. J'ai pensé à eux quand j'ai lu ça. Parce que Moïse envoie ses 12 hommes pour espionner la terre qu'ils allaient conquérir. Et 10 hommes reviennent très amers, très négatifs, très acides dans ses paroles. Ils disent, la terre est bonne, mais le peuple est plus fort que nous. Ce sont des géants. On va mourir, nos enfants vont mourir. Et en plus, c'est à cause de vous, Moïse et Aaron, nos leaders. C'est vous qui nous avez conduits jusqu'ici. C'est votre faute qui tout s'émiette maintenant. Ils disent même qu'ils vont choisir un autre chef pour pouvoir retourner en Égypte. Très lime, en train de, dans ses paroles. Rap, voilà. Allez. Et Caleb et Josué étaient aussi allés voir la terre et sont très bouleversés par ce qui est dit, par cette amertume, cette acidité dans les paroles. Et puis ils disent, oui, oui, le défi est grand, mais Dieu est avec nous. Il va nous conduire, il va nous donner la terre, il ne faut pas se désespérer maintenant. Au lieu d'être acides avec Moïse et Aaron, ils placent leur confiance en Dieu et puis ils parlent avec douceur dans une situation stressante. C'est clair que c'était stressant d'aller se battre contre des gens plus grands que toi. Et puis du coup, par ce qu'ils ont dit, par cette douceur dans les paroles, Dieu dit, aucun de ceux qui m'ont méprisé ne le verra, du coup, la terre promise, l'héritage. Quant à mon serviteur Caleb, puis après il dit aussi Josué, parce qu'il a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé et sa descendance le possédera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Hériter la terre, ça signifie pour nous qu'on obtiendra ce que Dieu a promis. On va goûter ses promesses, on va les recevoir. Le 15 avril 1983, à l'âge de 91 ans, Corrie ten Boom est décédée. Elle est décédée le jour de son anniversaire. Et selon certaines habitudes courantes juives, célébrer sa naissance et sa mort le même jour, c'est un signe d'une personne hors du commun. Dans le cas de cette dame, je pense que c'était vrai. Traverser un camp de concentration tout en gardant sa foi dans un Dieu souverain qui dirige toutes les choses dans une situation comme ça. Et puis après avoir pu rester douce malgré les horreurs, je suis sûr qu'elle a aussi hérité une belle partie de terre dans l'endroit où elle est maintenant. Et Dieu veut aussi nous donner une terre comme héritage. C'est très probablement pas la terre de nos projets. C'est ces petites choses de chaque jour qu'on s'attache avec tellement de force qui nous font perdre l'essentiel. La terre que le Seigneur veut nous faire hériter apporte beaucoup plus de paix, de satisfaction, de vie libre que simplement rayer une ligne de notre liste de choses à faire. Et ce que j'aimerais, du coup, pour ces fêtes de fin d'année, c'est que moi d'abord, j'apprenne à être cette petite lumière en apprenant à être véritablement doux. Parce que, pour terminer aussi avec une phrase de Corrie, si Dieu nous envoie des chemins pierreux, il nous fournit aussi des chaussures solides. Ça peut être des personnes sur qui s'appuyer pour cheminer. Ça peut être sans soutien surnaturel, droit quand on a besoin. Ces chaussures solides. Prions ensemble. Seigneur Jésus, merci pour ton encouragement à ce qu'on te fasse plus confiance pour être plus doux, Seigneur. C'est un défi grand aussi pour nous, même si on n'a pas des géants physiques à faire face, à devoir lutter pour conquérir une terre. Il y a tout plein d'autres petites choses, Seigneur, qui ne devraient pas, mais qui volent notre douceur. Je demande de, par ta lumière, nous aider à être plus cette lumière, de pouvoir, quand ces moments surviennent, déposer à tes pieds ou en parler à quelqu'un. Seigneur, et pouvoir recevoir cette douceur, pouvoir recevoir plus de liberté. Et briller de cela, Seigneur, pouvoir témoigner à ceux qui sont autour de nous, qu'ils soient chrétiens ou pas. Dire, mais Dieu m'a aidé dans cette situation-là, dans cette chose aussi simple que ça. Il m'a aidé, il m'a donné de sa lumière pour que je puisse à mon tour être aussi une lumière dans ce monde. C'est ça qu'on te demande, en pensant déjà à toutes les fêtes, les activités qu'on aura en cette fin d'année. On veut apprendre de ta douceur. Amen.
Merci beaucoup pour ce message. Que le Seigneur bénisse ces paroles, qu'il les garde dans nos cœurs, qu'ils puissent porter du fruit. Maintenant, nous arrivons gentiment au terme de notre culte. Je donnerai encore la parole à Endo Yvan. Et puis, je demanderai à Clarisse de venir sur scène aussi.
Y a une page qui se tourne. C'est que nous, on va quitter le poste de l'armée du salut. Les plans de Dieu nous ont emmenés à Estavayer. C'est pas loin de chez nous, c'est à 10 minutes, au lieu de 5 ans. Comme 40 minutes le matin, on dit pas non. Pas. On a trouvé une chouette communauté aussi à Estavayer. On est très bien accueillis là-bas aussi. Des gens assez formidables. Et puis, Du coup, on va venir un peu moins souvent ici, un peu plus souvent là-bas. Puis, notre porte est toujours ouverte. Si vous êtes perdu à Muriste, souvent à Muriste, il faut juste être perdu pour y aller. Mais la porte est toujours ouverte. Voilà. Et comme c'était pas bien long à dire, je voulais vous partager un dernier truc avec vous. C'était en octobre là. Le grand là, qui a fait ses 10 ans. Alors du coup, on avait dit, on fait un voyage pour les 10 ans. Alors, il avait choisi l'Égypte, une destination facile à organiser. Et donc, on a réussi, on a négocié avec l'école et tout. On a eu plus de vacances, on a fait l'école même à la maison, pendant le voyage quoi. Et bref, et on a pu partir, on a eu la chance de partir 3 semaines. Et puis il y a un endroit quand même qui était assez magique pour nous, c'est au Caire. Il y a un quartier copte, et puis dans ce quartier copte, il y a une église qui a été bâtie sur une ancienne maison. Et puis dans cette maison, en l'an 0, il y avait une cave. Et en fait, Jésus et ses parents, quand ils ont dû fuir l'Égypte, parce que le roi voulait tuer.
Ils ont dû fuir en Égypte.
Oui, ils ont dû fuir en Égypte. Et bien en fait, ils se sont réfugiés dans cette cave pendant 3 ans. Et puis, ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, ils ont construit l'église par-dessus. Paris, ils ne savaient plus trop pourquoi ils ont construit une église. Donc, en fait, le sous-sol, c'est devenu un truc. Et puis, c'est quelques temps, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, c'était un peu inondé parce que le Nil, tout ça. Et donc, ils se sont dit, mais il y avait quelque chose sous cette église. Alors, ils ont un peu tout redécouvert, quoi. Et en fait, c'est arrivé à 70 ans. Mais c'est quand même assez formidable, parce qu'on a pu visiter cet endroit et de se dire que Jésus, bébé, avait vécu là avec ses parents. Réfugié du coup, dans une cave, c'est quand même pas rien. Mais c'était assez émouvant de toucher cet endroit, d'y être, ça nous avait beaucoup touché. Et dernier témoignage.
Alors, Clarisse, ça veut dire d'autres mots. En tout cas, elle va prier avec vous.
Pour vous bénir aussi.
Alors, j'invite toute la famille devant moi-même. Alors, un départ n'est jamais facile, peu importe. Si, bien sûr, on est content que vous avez trouvé l'église tout près de chez vous. Et puis, mais de toute façon, vous allez le manquer. On a vraiment eu beaucoup de plaisir à vous côtoyer, à apprendre à vous connaître et tout ça. Bien sûr, la communauté un peu plus, parce que vous êtes là, ça fait longtemps, nous, à peine 3 ans. Mais on a vraiment beaucoup de plaisir. C'était vraiment un cadeau de vous connaître. Et puis j'aimerais aussi laisser un verset pour vous envoyer. C'est le verset de Jérémie 29, à partir du verset 11. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors, vous m'appellerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je vous envoie avec cette parole, en vous disant aussi, le thème, il va avec ce qu'on vit là, que vous puissiez briller de cette lumière où vous allez être maintenant, dans votre église, et que vous puissiez vraiment partager cette lumière qu'il y a à l'intérieur de vous, autour de vous, que Dieu puisse vous inspirer, vous soutenir, et que bien sûr, on continue de prier et de penser à vous.
On va se voir quand même.
Mais oui, j'espère au moins. J'espère au moins. Alors voilà, on est content pour vous, on aimerait vous bénir et vous envoyer avec voilà, la bénédiction du Seigneur. Et puis pour ça, j'invite toute la communauté à se lever et à prier près de Yvon et puis Louise et puis Élie. Seigneur Jésus, merci pour ton amour qui nous réunit aujourd'hui. Merci pour ta présence. Merci pour cette famille tellement spéciale qu'est la famille de Rendez-vous avec Louise et Élie. Seigneur, ils sont précieux pour toi, ils sont précieux pour nous. Seigneur, merci parce que tu nous as donné la possibilité de les connaître, Seigneur, de les côtoyer, d'apprendre un peu plus sur eux. Et puis, merci pour tout ce qu'ils ont donné aussi ici au poste d'Orbe, toutes ces années. Seigneur, merci parce qu'ils ont donné de leur temps, de leur talent. Seigneur, merci parce qu'ils ont un cœur vraiment tourné vers toi, Seigneur. Et puis, on te demande vraiment de les bénir, Seigneur, de continuer de les bénir. On les envoie vraiment avec ta bénédiction, que tu puisses les accompagner, qu'ils puissent prendre vraiment cette parole pour eux. Seigneur, qu'ils puissent te chercher avec la certitude qu'ils vont te trouver, que tu restes ici avec nous, bien sûr, mais tu vas aussi avec eux. Et on te demande de les bénir au nom puissant de Jésus, Seigneur, que tu puisses les équiper à chaque jour, donner la sagesse, Seigneur, la force pour continuer jour après jour. Et merci pour cette lumière qui brille à l'intérieur de chacun d'eux. Seigneur, merci parce que tu es fidèle dans la vie des Mandela. Seigneur, merci parce que tu as toujours été fidèle et que tu vas continuer. Seigneur, on les bénit, on les envoie en ton nom, Jésus. Amen.
Merci.
Ah, pardon.
J'oubliais. J'avais préparé quelque chose pour vous, je vous en avais pas besoin d'ouvrir maintenant. Voilà. J'ai oublié ça.
Est-ce qu'il n'y a que d'autres annonces à faire? C'est bon, tout est dit. Donc, j'aimerais vous dire un peu une bénédiction pour terminer ce culte. Une bénédiction pour chacun personnellement. Le Seigneur dit à Moïse ce que Aaron devrait dire à son peuple. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur lève sa face vers toi et te donne la paix. Amen. Un bon dimanche à tout le monde et une belle semaine.